Merci à vous tous. C'est maintenant l'heure d'aborder notre quatrième thème, soit l'économie et le développement régional. Voici donc la première question. Le télétravail est maintenant devenu un incontournable. Malheureusement, des villages de la région ont encore du mal à accéder à un réseau cellulaire fiable. Certains n'en ont tout simplement pas. Que comptez-vous faire pour remédier à la situation, sachant que les télécommunications sont de juridiction fédérale? La question s'adresse dans un premier temps à M. Turcotte. Vous avez 45 secondes.
Oui, ben nous, au Parti vert, effectivement, là, on trouve. Personnellement, je trouve ça absurde là, qu'en 2021, dans un pays comme le Canada, qu'il y ait des endroits encore où la haute vitesse ne se rend pas. Je peux prendre un exemple de ma région natale, là, Charlevoix. Il y avait des endroits dans la région où il y avait. Ils marchaient encore avec le 56K. Là. Puis ça a pris le G7. Ben, quand les grands et puissants viennent, ben là, effectivement, là, les choses débloquent tout d'un coup. Là, comme par magie. Ben nous, on se propose là, d'aider les entreprises là, à étaler la haute vitesse partout, là, que ce soit à Chibougamau, que ce soit à Sorel, ou sûrement qu'à Sorel, ils l'ont, là, mais bon, dans des régions.
Là, tu viens de faire un tour.
Monsieur Caisse, à votre tour.
Télécommunications, ben c'est un problème, mais c'est pas juste ici dans Bécancour, Nicolas Sorel, c'est à grandeur du Québec. Les compagnies de télécommunications, qu'est-ce qu'on a déjà parlé, c'est que le CRTC présentement, la direction du CRTC, c'est une personne qui vient de chez TELUS. Ces personnes-là, des fois, ont plus intérêt à faire monter les actions de TELUS, Bell ou Rogers que de brancher les citoyens. Fait que c'est peut-être un... Ici aussi, c'est que c'est chapeauté. Il y a plusieurs organismes à l'intérieur du gouvernement pour aider la connexion des gens, brancher les gens au réseau. Merci. Et puis, c'est un peu le problème aussi. Il y a beaucoup de trop de personnes à l'intérieur.
On pourra y revenir au débat, mais Mme Gauvin?
Là, la question, c'était pas sur les télécommunications, hein? C'était sur...
Oui, sur la téléphonie, le réseau cellulaire, okay. La fiabilité, ouais. Oui, dans les régions rurales.
Bien, c'est pas payant dans un grand territoire d'aller porter du fil très loin, là, parce que les abonnés sont plus dispersés. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, parce que ça s'est fait ailleurs. On n'est pas le seul pays à avoir un grand territoire avec une population concentrée à certains endroits. On n'est pas loin ici là, des grands centres, donc il n'y a pas de raison pour pas qu'on aille haute vitesse. Le NPD s'est engagé dans ça, puis il y a déjà des subventions fédérales avec Inforoute Canada qui existent. Et je pense qu'il faut mettre la pédale dans le fond là, pour que ça aille plus vite.
Merci, M. Plamondon.
Ah. Merci.
45 secondes.
Citer en exemple la ville de Bécancour, lorsqu'ils ont installé pour le réseau cellulaire, là, avec un programme de 15 millions de dollars, convaincu chaque municipalité de la MRC à y collaborer, et en collaboration avec Sojetel, qui a fait vraiment aussi un travail remarquable là-dedans, et surtout contribué financièrement pour arriver à ce développement-là. Il y a donc des initiatives, ça a été cité en exemple à travers le Québec, cette initiative-là, mais il reste que le gouvernement s'est engagé là, pour jusqu'en 2022, est-ce que tout le monde en est? Et j'étais la semaine dernière à Manceau, et en plein milieu du village, je parlais au téléphone avec le maire, et puis passer l'église, ma ligne a coupé. Donc, il y a des pannes dans dans nos paroisses. Il faut absolument faire quelque chose pour faire une
Merci.
Accélération.
Dans la vraie vie, il faut arrêter de confondre la couverture cellulaire avec la couverture réseau large bande Internet. C'est pas la même chose. Le cellulaire, c'est notre téléphone dans lequel on parle et ça a un impact sur notre sécurité public, la santé de nos parents, de nos enfants, mais ça a aussi un impact concret sur le développement économique. Quand un employeur peut pas envoyer son employé, laisser son employé travailler chez eux en télétravail parce que le cellulaire, les nuages sont trop bas, il vente aujourd'hui, donc il n'y a pas de fiabilité, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a des moyens simples. Oui, avec la couverture Internet qui va être déployée et qui est en train d'être finalisée, ça aide, mais il y a aussi la mettre en place des boosters d'ondes qui pourraient une solution efficace à court terme.
Merci. On passe maintenant au débat de 5 minutes qu'on débute cette fois avec une question de Marie-Ève. Marie-Ève?
Oui, la parole va être à Mme Gauvin. Le manque de main-d'œuvre est criant partout dans toutes les sphères d'activité. Nos entrepreneurs et nos organismes communautaires peinent à trouver des travailleurs et à les retenir. Comment pouvez-vous les épauler?
Bon. C'est sûr que les salaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi moyen d'aider au niveau des OBNL à peut-être réussir à avoir des salaires plus intéressants. Par rapport à l'immigration, qui est une solution, mais qui n'est pas non plus la panacée, là, c'est pas instantané, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà rendus au Québec, il y a des gens qui viennent à chaque été aider, qui pourraient peut-être s'installer. Il y a des gens qui ont de la famille, qui pourraient venir, qui seraient déjà accueillis, que ce serait plus simple de les intégrer, qui pourraient aussi être facilités. Au niveau... des réfugiés, on sait à quel point souvent ils sont très rapides là, à s'intégrer. On dit souvent qu'un immigrant économique puis un réfugié, il n'y a même pas de différence au bout de 10 ans. Là.
Merci. Monsieur Turcotte?
Oui. Nous, au Parti vert, effectivement, nous aussi, on se fierait sur l'immigration pour les postes vacants. On a aussi des idées concernant les personnes handicapées, les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. On se proposerait d'aider les entreprises à s'adapter là. C'est souvent des employés qui sont vaillants, qui sont fidèles à leurs employeurs, qui sont très sont travaillants, ponctuels. Écoutez, adapter par exemple un milieu de travail pour une personne autiste, ben avoir une salle blanche où ils peuvent aller se reposer les sens quand ils sont trop surstimulés par exemple là. Entre autres choses, leur offrir les coquilles des fois aussi. C'est le genre de choses que nous, là, on veut un Canada libre, égal et juste. Là.
M. Plamondon?
Je pense que lorsqu'on veut établir des personnes, des immigrantes dans notre région, il faut avoir aussi des attraits. Et je voudrais citer le programme Pays qu'on appelle, qui est dans Fortierville-Saint-Françoise, là, où lorsqu'on va chercher une famille d'immigrants, on lui fournit une maison. On lui fournit des cours de français à la maison si une des deux personnes reste à la maison et un emploi garanti dans une des fermes ou des petites PME de la région. Ça a marché la première année avec déjà une dizaine de familles et ça continue. C'est des exemples comme ça, des choses comme ça qu'il faut mettre en place dans toutes les régions du Québec. On ne peut pas juste dire « venez-vous-en chez nous ». Il faut qu'il y ait un attrait, qu'ils sachent qu'ils vont s'installer comme tous les autres citoyens et citoyennes de cette paroisse-là ou de cette région.
Comme je le mentionnais tout à l'heure, Louis a parfaitement raison, le pays fait un travail extraordinaire, mais on travaille tout ça en réseau dans la région et c'est extraordinaire, on fait des jaloux ailleurs au Québec parce qu'on travaille Carrefour Jeunesse Emploi, pays, des organismes de régionalisation et les élus ont un rôle à jouer majeur. Moi, je suis arrivée dans la région parce que mon élu à l'époque m'a fait faire le tour du village, j'ai fait « j'aime ça », m'a présenté les ressources, m'a présenté ce qu'il y avait à faire, je fais « j'aime ça, je déménage ». Maintenant, je suis une fière résidente de Pierreville. Mais c'est comme ça aussi qu'on doit travailler. La personne qui s'en vient travailler chez nous, c'est pas juste un numéro sur un payroll. C'est d'abord un humain, c'est peut-être un parent, c'est sûrement un ami. Donc, quelqu'un qu'on a besoin d'accueillir et qui a besoin de se sentir entouré.
Je pense que pour la reprise des économies... Ah, excusez-moi.
Je vais offrir la parole d'abord à M. Kess, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.
Mais pour les employés, oui, on parle de réintégrer des gens, les immigrés. Mais on a quand même des travailleurs aussi qui sont au Canada. Je parle de mon expérience personnelle. Avant, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et puis on demandait plusieurs diplômes. Aujourd'hui, on a des gens qui sont moins diplômés. On a des jeunes qui ont fini l'école au secondaire 2, 3. Ça serait peut-être de permettre à ces gens-là de retourner sur le marché du travail puis avoir des connaissances précises dans qu'est-ce que les employeurs ont besoin, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie lourde. Il faut vraiment regarder, aller chercher ces gens-là.
Il nous reste une minute. Mme Gauvin voulait prendre la parole et ensuite Mme Rochefort.
Oui. Alors, le NPD voulait diminuer la dette étudiante pour les jeunes qui allaient s'installer en région. Même chose aussi pour un crédit d'impôt pour encourager les nouveaux diplômés. Ensuite, le NPD voulait aussi faire davantage d'économies sociales et coopératives. Parfois, ça peut aider à reprendre une PME puis réorganiser là, en mode plus coopératif là, avec des coopératives de travailleurs.
Madame Rochefort.
Encore une fois, M. Kess nous montre qu'il n'a pas fait ses devoirs. Ça existe déjà comme programme. C'est même en partenariat avec la commission scolaire où on a une reconnaissance des acquis en entreprise. Je vous donnerai un exemple d'une entreprise qui fabrique des camions de pompiers dans notre région. On offre une formation de soudeur sur place et il y a possibilité d'avoir une qualification par la suite. Et ça existe dans de multiples domaines. Il faut juste être enseigné. Et nous, comme élus, même si ce n'est pas dans notre champ de compétences, on se doit d'en
Monsieur
faire
Kess, la promotion. Monsieur Kess, madame, d'un point de vue, d'une entreprise, OK?
Ah, je peux vous en donner des dizaines.
Arrêtez. Ça suffit. Depuis le début de la soirée, vous parlez de moi, là, vous ne nommez pas les autres. Arrêtez, là. Je sais que vous tirez de l'arrière dans les sondages.
Louis, je t'ai nommé une couple de fois. Regardez.
S'il vous plaît.
Bon, j'ai nommé Louis une couple de fois.
Merci à vous tous. On va y aller maintenant avec le deuxième débat, en fait, sur ce thème. Marie-Ève?
Oui. La hausse fulgurante des prix à la consommation et des logements devient de plus en plus préoccupante pour bien des ménages qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Le gouvernement fédéral devrait-il intervenir et comment? La parole est à M. Plamondon.
Oui, le gouvernement fédéral a toujours raison d'intervenir lorsqu'il en a les moyens, et deuxièmement, et lorsqu'il respecte les juridictions des provinces. Et dans ce sens-là, lorsque tout ce qui est éducation, qui est santé et qui est aussi mesures sociales, généralement, c'est par des transferts aux provinces qu'on le réussit bien. Au Québec, je pense que les gens ont un très bon soutien. Bien sûr que ça peut être amélioré. Bien sûr, il y a encore des gens qui souffrent et qui ne reçoivent pas les programmes qu'ils attendent ou qu'ils reçoivent en partie seulement. Mais je reste certain, moi, que le Québec peut faire mieux que le gouvernement fédéral là-dedans et qu'il doit respecter la Constitution et transférer les argents pour arriver à répondre aux besoins des citoyens et citoyennes du Québec.
Madame Rochefort?
Bien, c'est pour ça, entre autres, que le gouvernement canadien, avec le Parti libéral, on veut transférer l'équivalent de 3 000 $ par famille versus donner des crédits d'impôt aux citoyens pour la création de garderies. 3 000 $ pour une famille, pour une création de place en garderie. Ici, dans notre comté, ça fait une réelle différence. On est aussi en pénurie. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a augmenté le supplément de revenus de garantie pour les 75 ans et plus. C'était une promesse de 2019. On ne savait pas qu'il allait y avoir une pandémie qui allait arriver, mais on a des plans pour aider nos aînés aussi à améliorer leurs conditions de vie. On a augmenté les allocations pour les familles avec enfants, surtout les jeunes enfants, parce que les dépenses pour les jeunes familles ont augmenté avec les années.
Monsieur Turcotte?
Ouais, nous, ce qu'on propose au Parti vert du Canada, c'est de vraiment revoir là, les promesses du gouvernement Trudeau là, en tant que logements sociaux. Nous, on se propose là, d'investir là, dans la construction de 50 000 nouveaux logements éco-responsables au Québec sur une période de 5 ans. On veut aussi là, investir dans la construction de logements adaptés aux besoins des Canadiens ayant des problèmes de santé physique ou mentale. Il y a un excellent programme là, à Shawinigan, justement, où ils ont construit des appartements pour des personnes trisomiques avec des déficiences intellectuelles légères. Là. Nous, on veut favoriser là, ces programmes-là là, dans la société pour justement là, faire arrêter de les considérer comme des humains de seconde zone, là, des citoyens de seconde zone. Là.
Monsieur Kess?
Si on parle là, vraiment là, du concret, c'est que depuis un an, l'essence a augmenté environ de 40 %. Le panier d'épicerie pour chaque famille a monté de 700 $ par année. C'est des choses que l'inflation est à 3,7 dernièrement. Puis M. Trudeau a dit là-dessus qu'il ne s'occupait pas de ça. Si M. Trudeau ne s'occupe pas de l'inflation, je ne sais pas qui c'est qui va s'en occuper. Mais à quelque part, ça coûte de plus en plus cher aux personnes. Aussi pour les logements, comme M. Turcotte faisait allusion, on a le plus grand propriétaire foncier au Canada, c'est le gouvernement du Québec. On a 35 000 bâtiments. On veut récupérer 15 % de ces bâtiments-là pour faire des logements. Alors, c'est un début, mais il faut aller dans ce sens-là. Il y a des bâtiments qui sont peut-être pas appropriés ou avec aussi le télétravail. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui travaillent à partir de chez elles. Alors, le gouvernement peut faire du délestage d'immeubles.
Mme Gauvin?
Le NPD veut vraiment faire un impôt sur la fortune des 1 % les plus riches, donc ceux qui gagnent plus que 10 millions de $. Étonnamment, il y en a plusieurs. Les ultra-riches font beaucoup d'argent. Les grandes entreprises en font de plus en plus. On veut ramener des revenus puis leur faire payer leur juste part parce que l'équilibre, c'est vraiment éloigné du travailleur moyen là, avec les années là, depuis, Harper et Trudeau. Là. Donc, il faudrait un retour du balancier. Aussi, au niveau des garderies, là, c'est sûr qu'il y a tout un marché avec des femmes là, qui aimeraient avoir accès et qui sont prises parce qu'ils n'ont pas de place. Puis je pense pas qu'un crédit en fin d'année sur des impôts payés fait en sorte que tu as les moyens de payer un gros montant pour peut-être avoir un remboursement à la fin. J'aime le concept des 10 $ par jour, puis ça devrait être plus facile d'accès.
Il faut faire la différence entre un crédit puis une subvention directe.
Mm-hmm. Réaction de M. Caisse, peut-être?
Non,
ça va. Monsieur Plamondon?
Effectivement, si vous n'avez pas de revenus, vous ne payez pas d'impôts. Donc, vous n'avez pas de crédit d'impôt. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Le programme du Québec est très, très bien apprécié, je pense, à travers le monde. Ici, c'est un exemple. Et au Canada, c'est l'exemple qu'on veut donner aux autres provinces, celui qui est installé au Québec pour les garderies, mais en même temps, tout en respectant les juridictions. Et là-dessus, il faut donner crédit à M. Trudeau, qui a promis le transfert, de respecter le fait que nous l'avons depuis 20 ans et de transférer 6,8 milliards. Là.
Exact, Louis. Donc, en conclusion, le crédit d'impôt sert uniquement à enrichir les plus riches et n'aide en aucun cas les familles les plus démunies.